Moi, j'aimerais qu'on remette, si c'est possible, la zone que vous avez créée au départ de Télécabine sur le parking. Quand vous parlez justement qu'il y a des zones intermédiaires d'obligation, je pense que vous avez oublié de superposer avec les servitudes de piste.
Non, non, non.
Alors, où passe la piste?
Eh bien, elle passe au-dessous et au-dessus. Mais pas dans la zone, non, non, non.
Oh, je ne pas du tout.
Eh bien, alors, elle passe ici, c'est dans la zone verte. Alors, vous
Non,
m'expliquez.
si vous regardez la piste qui descend depuis les servages, donc c'est dans l'arrondi, vous tirez tout droit jusqu'au télécabine, on est en plein dans le bleu.
Alors, cette zone-là correspond aux emprises du parking. Donc, à ma
Non.
connaissance. Ah, si. Ah, ben, si, je vous assure. Ah, je vous assure. Non, non, ça, c'est.
Moi, je veux bien, mais il y a quand même une continuité entre les deux pistes, celle qui arrive de la Meurthe et celle qui arrive du Servage. Or là, tout en haut, elle est où la continuité entre la zone verte et la zone bleue?
Alors, je vois pas à quel endroit vous parlez.
Bah,
Alors,
je pense que ceux qui ont l'habitude de.
non, mais de toute façon, madame, on a toutes les couches, donc ça on peut le vérifier. Là, je ne
Ouais.
vais pas, on peut le vérifier. Ça, c'est pas un problème. On l'a déjà fait, mais on peut le refaire, c'est pas un souci. Si par hasard il y avait une erreur, de toute façon, la servitude s'impose au PMU. Elle est plus forte que tout. Comme le PPR est une servitude. Admettons qu'il y ait une erreur, à un moment donné, il y a une erreur de report du PPR. On soit trompé et qu'on ait classé une zone à risque en zone U. Le PPR est plus fort que le PMU. Donc, on vérifiera, hein, je le notais, mais si jamais il y avait un bug, de toute façon, c'est la piste qui prévaut.
Après, j'ai une autre question concernant les règles qui sont inscrites dans votre document. Est-ce que vous avez prévu les débords de toit et les débords des balcons?
Oui.
Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient comptabilisés dans les 5 mètres. On s'aperçoit que des fois, donc ils ont droit à 1,50 m d'être dans les 5 mètres, ce qui fait qu'il n'y a que 3,50 m d'écart entre la parcelle A et la parcelle B. Ce qui fait que, pour la qualité de vie, comme tu disais, bientôt, le gars qui est sur le balcon, il mange avec celui qui est sur sa terrasse. Donc, est-ce que on a eu quatre figures, par exemple, avec la maison de Madame, enfin, sans parler de Madame Pizzolitto, avec la construction de l'EGM à côté, c'était un vrai problème.
D'accord.
Voilà. Donc, en fait, à mon avis, il faudrait que les débords de balcon soient inclus dans les 5 mètres de retrait. Qui favoriserait aussi la réduction de l'emprise de sol des bâtiments.
D'accord. Oui, on vérifiera, mais c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Et les reculs ne sont pas les mêmes sur les zones, bien évidemment. Hein. Dans les zones denses, il y a des secteurs où on autorise, par exemple, les constructions. Sur limite parcellaire.
Oui, mais par exemple, dans une zone dense, ce qui était le cas, puisque c'était LGS, c'était un gros bâtiment à côté, c'était un chalet, et qu'effectivement, dans cette zone, il y avait le droit de construire jusqu'à 1,50 m avec des bords. Et à côté, un petit chalet, elle avait le gars qui mangeait sur son balcon.
On revérifiera, parce que là, en fait, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je sais que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, y compris les sanctions. Oui, alors Alexandra, pardon, me dit que c'est pris en compte. Oui, on a beaucoup discuté parce qu'effectivement, la commune avait quand on était sur le règlement, avait toute une liste de difficultés à régler.
Et sous quelle forme c'est pris en compte?
Tout point du bâtiment, je crois, on a écrit.
En
Hein.
tout point,
Oui.
les règles de recul s'appliquent en tout point. Donc la bâtisse du balcon, les ébords de toit.
Oui, on l'a mis en tout point du bâtiment. C'est-à-dire que ça peut être le chenot, ça peut être le balcon, le calcul par-delà et non pas de la façade. Oui, on l'a mis en tout point du bâtiment. Monsieur au fond, bien monsieur au fond. Ah, je ne sais pas le nom.
réaliser des choses.
Alors, après je passerai la parole à M. Maire, bien sûr. Alors, au niveau, on a un premier levier d'action au niveau du PLU. Voilà. Parce que le code de l'urbanisme définit des destinations qui sont très précises, des destinations très précises. Et par exemple, ces fameuses zones UH, qui sont des zones hôtelières, on ne peut faire que des hôtels et des résidences de tourisme. Et là, il y a une définition très précise. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que les communes exigent une convention long terme, voilà, qui est prévue, qui est obligatoire. Hein. Donc il y a un conventionnement entre la commune et les propriétaires pour encadrer justement l'usage sous forme de guichet. Et que convention long terme qui est annexée au permis de construire.
Et dans les guichets, il y a effectivement l'habitat permanent aussi. Donc là, c'est ce que je précisais en introduction. On fait ce qu'on appelle les OAP. Les OAP, c'est organisation d'aménagement programmé. C'est orientation d'aménagement programmé. On définit que cette zone-là va être, réservée à l'habitat permanent. Donc un promoteur ne peut pas arriver pour faire, une résidence, même une résidence de tourisme, pour ne pas. Donc c'est la définition, justement, la définition du zonage qu'on établit au sein du PLU qui contraint le porteur de projet à jouer dans le cadre qu'on lui a défini, tout simplement.
Autour de la chèvrerie. Donc on a défini tout un périmètre
Il n'y aura pas de révolution avec la chèvrerie, on pourra mettre trois agriculteurs. Puisque là aussi, il y a des contraintes qui sont très embêtantes, notamment par exemple le bâtiment doit absolument être séparé d'au moins 50 mètres. Parce que souvent dans ces zones agricoles, il y a parfois des zones, enfin, il y a le logement de l'agriculteur. Et par rapport aux nuisances des bêtes, il y a des normes qui font que, d'abord, un, cette zone agricole qui se trouve sur les champs, nous voulons la limiter, parce que la majorité de la zone des champs, ça va être du pâturage, ça va être de la zone agricole pure. Et on a délimité une zone, comment dire, où on peut faire des bâtiments agricoles, mais au gros maximum, on pourra mettre trois bâtiments agricoles. Mais voilà, après, pendant la discussion, on aurait très bien pu élargir ce périmètre. On pourrait très bien l'élargir. Quand je parlais des points de discussion, ça, c'est des points qui peuvent tout à fait se discuter, c'est ce que j'appelle les zones grises. Hein. Parce que le problème, on a. C'est pas simple d'implanter des activités agricoles sur la commune. On s'est vraiment. On s'est retourné le casque dans tous les sens. C'est pas aussi simple que ça.
Oui, parce que. Effectivement, sur le plan des zones agricoles, c'est toutes les zones vertes qu'on voit ici. Oui. Mais très souvent, on est à proximité des habitations. Donc de fait, alors si je reprends ici, voilà par exemple cette zone verte qui est agricole, bien pour implanter un bâtiment, je dois me tenir à 50 mètres des habitations. Donc du coup finalement, ça réduit vachement les possibilités. Et après, la grande zone agricole, c'est dans le secteur de l'Afras, Balancy, tous ces coins-là. Voilà. Il y a déjà des fermes existantes, et là, on a encore des grandes zones. Ou éventuellement. Mais c'est pareil, pour accepter la construction d'un bâtiment agricole, il faut qu'il y ait un accès, il faut qu'il y ait des réseaux, sachant que les réseaux, c'est la charte commune, donc les communes, elles n'ont pas envie que les bâtiments agricoles se mettent à 10 km des réseaux d'eau et d'électricité, sinon la facture, c'est pour la commune. Donc,
par exemple, sur la zone des champs, on ne voulait pas qu'il y ait une magnifique plaine, qu'on voit en arrivant, qui est absolument splendide. Et on ne voulait pas positionner cette zone en mettant des bâtiments sur l'autre, par exemple. On voulait vraiment que les bâtiments se concentrent sur le bas, le long du chemin, là, pour justement qu'il n'y ait pas d'impact paysager qui soit, dérangeant. Donc, c'est pour ça qu'on a défini une zone qui est ce qu'elle est. Elle peut être un petit peu arrondie, peut-être. Il faut qu'on regarde. Encore une fois, c'est un projet de PLU, hein, donc tout est encore discutable. Hein. Et je sais que tu as un terrain dans le coin.
Non.
Si, tu as un terrain, mais juste.
Oui, ma question c'était concernant donc, la pérennisation de l'habitat permanent. Vous avez évoqué le problème du prix du foncier. Quels sont les leviers que vous avez pour favoriser, pour limiter le prix du foncier, justement, dans quel secteur et de quelle façon?
Alors, justement, c'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est économique, hein, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la vente. À partir du moment où un terrain a une destination qui est très large, le terrain est très cher. À partir du moment où un terrain a une destination limitée, ça va mathématiquement faire chuter le prix du terrain. Mathématiquement. C'est-à-dire qu'un promoteur se dit, ben voilà, c'est l'habitant permanent, tout le monde c'est de l'habitant permanent. Ben, c'est pas pareil que s'il peut faire des chalets pour des multimillionnaires suisses, etc. Donc le prix du terrain va chuter mécaniquement de par la contrainte qu'on va imposer au zonage. C'est tout. Après, j'ai envie de dire, après il y a les aides. C'est-à-dire quand on fait un logement. Quand on fait des logements sociaux, aujourd'hui, il y a des financements publics, de l'argent public qui sert à contracter des bailleurs sociaux et qui permettent, de par l'apport de l'argent public, de baisser le prix, en accession aux propriétés. Mais le problème aujourd'hui, ça c'est un énorme problème. Parce que le montage de ces opérations-là, aujourd'hui, il coûte très cher à l'activité. Et nous, on a un problème aujourd'hui, c'est que dans la communauté de communes plus orientale dont on fait partie, on est la commune où le prix du foncier est plus cher. Quand je dis plus cher, c'est nettement plus cher. C'est trois fois plus, et plus à 15 ans. Donc aujourd'hui, même quand on voulait faire des programmes de développement de logements sociaux, ben on est encore au-dessus du prix foncier, on est encore au-dessus du prix de l'immobilier incluse. Donc bon, soit les gens font l'effort parce qu'ils trouvent que c'est plus sympa d'habiter au carreau qu'à plus, c'est pas dire un genre de toute place, mais ça a un coût. Donc là, c'est beaucoup d'argent public. Hein. Donc il faut trouver des stratagèmes, donc des montages comme le bail réel et solidaire. Le bail réel et solidaire, c'est un système qui est en place maintenant depuis quelques années en France, qui s'est inspiré du système anglais, où on dissocie la propriété du sol de la propriété des murs. C'est-à-dire que vous achetez un bien pour 99 ans, mais vous n'êtes pas propriétaire du sol. Donc ça, c'est des montages qui permettent de faire baisser le prix à peu près de l'ordre de 30% par rapport au marché.
C'est la collectivité qui est propriétaire du sol.
Oui, la collectivité propriétaire du sol. C'est des trucs qui, en Angleterre, qui existent depuis la nuit des temps, hein. Et qui n'appartiennent pas à la reine, d'ailleurs, comme souvent le disent, hein, mais qui appartiennent à l'État. Donc vous achetez un bien pour 99 ans. Donc l'avantage, c'est que au bout de 99 ans, bon, généralement, ça dure une ou deux générations, mais au moins, sur le pendant le temps, vous achetez votre bien à peu près 30% en dessous du prix du marché. Donc il commence à y avoir des montages comme ça qui sont en train de fleurir. Et de toute façon, c'est je le disais tout à l'heure, dans les logements permanents, si j'intègre les CCD, actuellement dans un projet, un bâtiment qu'on a racheté à l'armée, donc qu'on est en train de réhabiliter, et qui permettra de loger des saisonniers à des tarifs qui seront des propriétés de la commune, mais qui permettront de loger des saisonniers à des tarifs, extrêmement attractifs. On sait très bien qu'aujourd'hui, un restaurateur ou un magasin de sport, s'il ne loge pas ses saisonniers, il n'embauche personne. Hein. Donc c'est un sujet. Quand on a des gens qui gagnent un tout petit peu plus que le SMIC et qui doivent payer 700-800 euros de loyer, bah, ils doivent manger des pâtes tous les jours, et encore, je ne sais même pas si ils vont s'en sortir. Donc on a un vrai sujet aussi là-dessus, c'est ce que j'appelle là du semi-permanent. Donc voilà, c'est des programmes qu'on essaye de construire les mécanismes qui permettent justement de faire baisser le prix du foncier et de mener des opérations pour revitaliser l'habitat permanent. Mais ça, c'est un sujet qu'on a pris très tard et qui aurait dû être pris déjà il y a très longtemps. Encore une fois, ça, ce n'est que la conséquence de tout ce que les territoires de montagne ont fait depuis 30 ans, hein, 134 millions. Hein. C'est comme ça. Hein. Et maintenant, pour redresser la barre, c'est compliqué. Mais on s'y entoure.
Alors, éventuellement, une deuxième petite question. Le PLU, c'est pour quelle durée et comment est-ce qu'il est modifiable, dans quelle limite?
Alors, c'est une bonne question. Donc, avec la fameuse loi climat dont vous parlez, maintenant, on est obligé de le réviser tous les 9 ans. Voilà. Et donc, là, il sera terminé, je pense, à la fin de l'année, hein, décembre, janvier, enfin, quelque part comme ça. Donc, au plus tard, dans 9 ans, ceux qui seront aux manettes à l'époque devront réviser le PLU pour de nouveau diviser par deux les zones constructibles. Donc, aujourd'hui, on a 16 hectares. Et dans le prochain PLU, ça sera 8. Voilà. Pour arriver à zéro en 2050. Voilà. Donc ça, c'est l'obligation. Après, le PLU, c'est un document qui est vivant. Voilà. Par exemple, il y a des projets qu'on n'a pas insérés dans le PLU aujourd'hui, parce qu'on n'était pas tout à fait mûrs. Notamment, je pense à un projet de restaurant d'altitude, hein, sur lequel bon, les études n'étaient pas tout à fait finies. On a dit, on termine les études, et quand les études seront finies, on fera une modification du PLU sur ce projet. Donc peut-être en courant 2024 ou 2025, enfin bon, quand les études seront finies. Il y aura peut-être des ajustements, parce que vous savez, même si ça fait des années qu'on bosse et qu'on a passé quelques milliers d'heures sur le PLU, il y a sans doute des erreurs et des boulettes. Voilà, ça c'est de relire les uns les autres. Donc peut-être qu'on sera amené à faire une petite modification, parce qu'il y aura une boulette qui nous aura échappé. Non, c'est pas réversible. Non, non.
Il n'y a rien d'irréversible.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la seule chose que je peux dire, parce que bon, moi, comme le disait le maire, je fais quand même beaucoup de PMU, j'entends dire, les gens, ils disent, oui, mais bon, allez, de toute façon, aux prochaines élections, on va tout changer, votre PMU, vous allez voir, on va tout mettre comme il faut. Je ne voudrais pas briser les élans, mais ça ne sera pas possible, parce que la loi est la loi. Hein. Donc dire, tiens, ben, je remettrai bien une zone à tel endroit, ça ne sera pas plus possible dans 3 ans d'aujourd'hui. Quoi.
Hein. Sauf si ça répond à un besoin.
Oui, oui.
Ça répond à un besoin.
Mais alors vraiment, très 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 bien argumenté. Hein. Oui. Voilà.
Merci. Je me demandais, en fait, moi je trouve qu'il y a un amalgame entre la zone hôtelière et la résidence de loisirs, c'est pas du tout la même chose. Vous appelez ça des 10 choses, pas du tout les mêmes choses, et en plus ces critères à l'hôtel, quand c'est un hôtel, une résidence de loisirs, c'est complètement différent. Je me dis, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne se retrouve pas avec un hôtel qui ferme, parce que ça peut aussi arriver, qui ne peut pas changer de destination, donc avec une friche hôtelière. Qu'est-ce qu'on se donne comme ouverture pour pouvoir leur permettre de changer éventuellement ou pas? Je sais que ça s'est fait dans d'autres stations, on va dire la fête, avec des. On leur donne la possibilité de transformer en appartement, sous réserve qu'il y ait des amendes, entre guillemets, ou en tous les cas des compensations financières qui font qu'on peut redonner un terrain ailleurs pour reconstruire un hôtel. Parce que je trouve que quand même de figer vraiment un endroit, on ne soumet pas, enfin, on ne s'exonère pas du fait qu'il y ait des gens qui puissent déposer du vent et puis ne pas avoir de repreneur sur des zones qui sont quand même des zones hyper touristiques, parce que comme par hasard, ben, c'est des servages ou le Cerveret, c'est des endroits qui sont les plus jolis quartiers de la station. Voilà.
Non, mais je pense que c'est une bonne question. Par contre, c'est pas que je fasse la tête des choses à Vincent, mais parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on a les outils juridiques pour pouvoir le faire? Parce que je pense qu'effectivement, la reversibilité des projets est très importante, et c'est le sens du BLU. Hein. Justement, donc, moi je pense par exemple, là on parle de l'hôtel Pélican aujourd'hui, je pense qu'on est des stations qui l'offre hôtelière la plus pauvre. Hein. À mon avis, on est dans le peloton de queue, parce que tout a disparu. Là, il y a urgence à régénérer les projets hôteliers. Et je pense que si on a la possibilité que les projets hôteliers qu'on a régénérés soient des projets hôteliers qui ne soient pas transformés en résidence hôtelière, si on a les moyens juridiques de le faire, ça, je pense qu'effectivement, il faut le faire.
En fait, votre question rejoint la question de monsieur qui était derrière vous, c'est-à-dire que. En fait, on traitera au cas par cas. Aujourd'hui, la doctrine, c'est de dire l'outil touristique, on le protège, on le fige. Mais vous avez tout à fait raison, on n'est pas à l'abri des accidents de la vie économique et tout. Donc on traitera au cas par cas. Et si sur un secteur, on a besoin de faire évoluer, on fera une modification du PLU, hein, pour la zone UH, parce qu'on pourrait. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans ou 10 ans. Hein. Peut-être qu'il y a un hôtel qui serait n'importe quoi. Transformé en logement pour les saisonniers. C'est peut-être débile ce que je dis. Hein, mais enfin,
si l'hôtelier se casse la figure.
Oui. Donc, mais comme aujourd'hui, ce sont des établissements qui fonctionnent, qui on préfère prendre une mesure de sauvegarde, et après, ben, le conseil municipal de l'époque jugera au cas par cas. Et s'il y a besoin, effectivement, je connais les opérations dont vous faites allusion. Il y a besoin de desserrer la ceinture sur un projet, ben je suppose que les élus le feront.
Voilà. Moi, contrario, j'ai peur justement que ça permette à des personnes justement d'arrêter l'activité ou justement pour aussi en friche pour pouvoir faire autre chose. On a la même problématique avec les dépôts inertes matérielles, enfin pas de matériel et autres, vous l'avez dit tout à l'heure à Fennes, c'est déjà exploité, du coup on peut faire un parking pour
Oui, mais alors...
Et là, on traîne l'autre, et on se met à la queue, et...
Alors, les friches hôtelières, franchement, j'y crois pas trop, parce que quand on voit le capital qui est immobilisé, j'imagine mal un propriétaire dire « je vais le laisser en friche pendant 5 ans pour mettre la pression à la commune ».
S'il a des communes bilans.
Oui, mais...
Oui,
enfin non, il y a un mandataire judiciaire pour ça. Mais après, ben, effectivement, ça sera examiné au cas par cas. Au cas par cas. Mais après, si effectivement, dans le cadre d'une faillite et d'une reprise d'activité, il y a un projet qui rentre dans la stratégie de la commune, pourquoi pas ? Après, c'est une modification du délit. C'est pas compliqué, hein ? Mais je peux vous dire que nous, moi je me rappelle, quand on a fait le PU de Courchevel il y a quelques années, on avait mis, c'était la première commune où on avait mis cet outil en place. Tout le monde nous prenait pour les fous. N'empêche, on a sauvé quelques hôtels comme ça. Hein. Parce que si ça partait des mains, les gars, ils faisaient la but par 5 hein, en vendant l'appartement. Je veux dire, évidemment, vendant à des coupes, et les hôteliers ne se posaient même pas la question. Je me rappelle quand on bossait sur le. Il y avait déjà un ou deux hôtels qui étaient partis comme ça, ils ne se posaient même pas la question. Il se fait venir un architecte, il transformait ça en appart et pfff. Et on a quand même sauvé un paquet d'hôtels dans ça. Alors après, comme vous dites, il ne faut pas être raide comme la justice, hein. Des fois, il faut.
Après, j'ai les autres questions sur.
Non, ce qui est sûr, c'est que les hôtels qui sont, comment dire, pour les services au carreau ont été transformés en résidences hôtelières. Donc, effectivement, c'est un sujet. Oui, en appartement. Oui, aussi, dans les 750. Hélène.
Oui. L'autre chose, c'était une réflexion sur les 7 hectares de nouveaux terrains constructibles. Quelle est la part de terrains communaux ? Parce qu'il me semble que c'est quand même une part très importante. Il y a le terrain qui est en bas de la télécabine, vous avez la partie pour la zone artisanale, et la zone artisanale, c'est sur du terrain privé ?
Non, c'est 50-50. Il y a 7 terrains, 7 propriétaires sur la zone artisanale, qui représente à peu près 50%. Et la part, tu vas la part des terrains privés ?
Mais la part des terrains communaux dans les 7 hectares, elle est faible. Hein. Mais alors, je m'excuse.
Je ne l'ai pas sous la main, mais de toute façon, dans le rapport de présentation, parce que on a parlé des documents que vous utiliserez tous les jours, qui sont le plan et le règlement, mais il y a un rapport de présentation, donc on est en train de terminer de le rédiger. C'est un énorme pavé qui fait 300 pages. Et il y aura toutes les explications, tous les calculs, tout le détail de ce qu'on a passé très très rapidement. Donc vous pouvez consulter ça dans les prochaines semaines, on est en train de finaliser. Je suis désolé, j'ai plus de chiffres en tête, mais non, c'est majoritairement les terrains privés.
D'accord. Donc on a des ratios qui sont les ratios des terrains entre propriétaires privés et communaux sur la commune. C'est ça, ma question, c'était un peu ça.
Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais à part quelques zones, effectivement, d'équipements publics qui sont prévus, mais qui sont quand même minoritaires, la majorité des terrains sont des terrains privés. Terrains privés, hein, ils sont. Ah ben, je voudrais dire une bêtise. Si je dis un chiffre, alors, oui, dans le rapport de présentation, oui, ça, vous trouverez dans le rapport de présentation, il y aura tout le détail, puisque là, je vous ai mis un tableau, il y a 4 lignes. Dans le bouquin, il y a 30 colonnes et 30 lignes. Hein. Donc il y a tout le détail exactement. Puis il y a des cartes qui vont avec. Bon, donc il y a des cartes que je n'ai pas mis, parce que sinon on est des tards dans la nuit. Hein. Mais dans le rapport de présentation, vous aurez tout. Alors, il sera consultable. On a encore un gros travail. Nous, on est en train de terminer de le rédiger. Maintenant, ça va être à la relecture des services de la commune. Donc, c'est un document qui ne sera pas disponible avant la fin du mois de juin. Il y a encore un gros bout de relecture, etc.
Le document que vous avez dit
qui
est à disposition.
Ah, ben, c'est les plans.
Est-ce que ça, on peut l'avoir plutôt que de se déplacer et de ne pas avoir le temps d'attarder? Est-ce que vous pouvez les mettre en ligne pour qu'on puisse les consulter en ligne? Ce sera peut-être plus simple.
c'est possible. Alors moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ouais.
Merci.
Tout est transparent.
Il y a de plus en plus, enfin, je crois que c'est votre contrôle, de PLU qui sont repris au niveau de l'intercommunalité. Quel est le droit de regard de l'intercommunalité Hervé Montagne par rapport à ce PLU s'il est adopté? Merci.
Alors, tu compléteras. Donc, effectivement, la grosse tendance, c'est que maintenant, pour le moment, aujourd'hui, tous les maires de la DCK et beaucoup de maires en France qui veulent garder leur PLU. Mais l'État pousse de plus en plus à ce que les PLUI, d'accord, l'État pousse pour que les PLU se fassent à l'échelle de la communauté de communes. D'accord, ça, il faut le savoir. Comme aujourd'hui, on a parlé du fameux SCOT, le SCOT, ça n'existait pas encore, hein, il y a 10 ans en arrière. Hein. Donc le schéma de cohérence aujourd'hui, le schéma de cohérence territoriale, l'État va tout l'imposer. Nous, on est presque trop rapide, j'ai envie de dire, parce que le SCOT, au moment, n'est toujours pas arrêté. En fait, ce que veut l'État, ben, c'est un petit peu le plus de la couture. Hein. Je veux dire, c'est la tendance de la centralisation. Hein. Je ne vais pas faire politique, mais ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va décentraliser, on fait le contraire. Donc, aujourd'hui, sous couvert de comité d'économie d'échelle, on ne va pas forcément venir. Donc, nous, aujourd'hui, les maires, on se plaint de ça. C'est-à-dire que toujours autant coupable, de moins en moins responsable. Hein. Donc, pour autant, on bâtir le sujet maintenant. Donc, aujourd'hui, la mécanique qui consiste à dire les avoirs artificialisés en net, le fameux Stradet dont on a parlé, le SCOT, et après, ce qu'on veut l'État, c'est PLUI. Et nous, on se bat pour garder nos PLUI. Enfin, on est déjà suffisamment encadré. Donc, si on perd les PLU, pas de dire que je rentre en écharpe, mais on dit que mon rôle de maire, ça serait juste d'organiser la cérémonie du 8 mai du 11 novembre, même si c'est avec plaisir que je le fais, mon cher président. En tout cas, comment dire, tous les gens qui souhaitent nous voir en individuel, on est d'accord, nous, on passe notre temps à rencontrer des gens en individuel. Hein. Donc, on est tout à fait ouvert aux rencontres. Moi, j'ai jamais refusé un rendez-vous à qui me l'a demandé. Je dis moi, c'est moi et les services. Hein. Donc, Aline, on passe énormément de temps. Valérie, Clarisse, Alex, on rencontre les gens. Donc, on explique, on débat. Donc, il n'y a pas de. Complètement ouvert, hein. On n'a absolument rien à cacher. Hein. Je veux dire, tout est hyper transparent. Hein. En tout cas, si pas de questions, moi je voulais vraiment vous remercier d'être venus aussi nombreux. La deuxième chose, c'est que je voudrais vraiment remercier toutes les équipes de l'urbanisme, Valérie, Clarisse, Alex, Aline, Philippe, Alexandra, Tourjo, que j'ai vu arriver, Noël, à tous les gens qui font partie de la commission urbanisme, parce qu'on s'en est tapé derrière quand on s'en est venu. Hein. À regarder les cartes dans tous les sens, c'est un énorme travail. Hein. On ratisse toute la commune, quoi. Puis on essaye d'aligner ce travail avec une politique, comment dire, à peu près cohérente. Hein. J'ai envie de dire, le rôle du maire et de son équipe municipale, c'est de, voilà, c'est de travailler pour le bien public. Hein. On n'a pas d'autre motivation que celle-là. Hein. Moi, j'ai jamais eu d'intérêt personnel à devenir maire, même au contraire. Et croyez en notre esprit de service, notre sincérité, dans un seul objectif, qui est de concourir au bien vivre ensemble, et de faire en sorte qu'on vive heureux. J'allais dire, je paragraphe mon ami Fabien Roussel, mais j'allais dire ça, ils vont taxer de communiste, donc est-ce que je ne vais pas rêver à la présidentielle. Mais voilà. Je pense qu'on n'a qu'un seul objectif-là, c'est qu'on soit heureux de vivre dans le village. Parce que comme disait Sylvain Tesson, la France a parfois tendance à penser que nous, Français, on vit à l'enfer. Je ne sais plus sa phrase exactement, mais c'était on a l'impression de vivre en enfer alors qu'on vit au paradis. On a tellement beau pays et notre village est tellement sympa à vivre que faut vraiment se, apprécier comment dire, cette, la qualité de vie qu'on a ici. Et le travail qu'on mène, c'est juste pour concourir au fait que ça continue, quoi. Même si on est dans un contexte compliqué, même s'il y a des tensions dans le pays, même s'il y a plein de problèmes, même si depuis 3-4 ans maintenant on se prend plein de trucs sur la figure, sachez qu'aujourd'hui, même si parfois on a des périodes de découragement, c'est de vous dire que c'est pas facile, et ben, on tient la barre, et moi je suis toujours aussi motivé pour contribuer à faire en sorte que notre village soit un village où on soit heureux de vivre. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée.